Dans ce journal, on fait un tour au Hilton où le séminaire sur l'alimentation s'est terminé ce matin. On revient aussi sur le passage du ministre de l'Éducation hier sur notre plateau avant de parler justice. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Bilan positif du côté du séminaire sur la durabilité des systèmes alimentaires.
Oui, souvenez-vous, depuis lundi, un atelier sur la thématique de l'alimentation se déroule au Hilton. Il réunit une soixantaine de participants avec des représentants des institutions et de la société civile de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, mais aussi de Fidji, Samoa, Kiribati et des îles Marshall. Tous ont été invités par l'Union européenne dans le cadre du projet Protège. Alors chaque pays a ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur les réalisations et les impacts des projets portés par Protège sur leur territoire. Mais pour l'Union européenne et la Polynésie, il s'agissait aussi d'amorcer un projet de travail en réseau dans la région. Les explications de Georges Dehoux, représentant de l'Union européenne.
Nous préparons aussi la prochaine phase, comme Monsieur le ministre le présentait. Et donc nous utilisons aussi cet atelier pour étudier des voies de continuation d'un nouveau projet. Et ça a été extrêmement utile sur ce côté-là, non seulement au niveau schéma technique, mais aussi au niveau collaboration possible entre les trois territoires, puisque notre prochain programme sera un projet régional et pas territorial.
Et ce projet d'envergure régionale donc intervient alors que les projets intègres et protègent, portés individuellement par les PTOM, prennent fin. Ces projets qui ont participé au développement de leur territoire doivent désormais servir à plus grande échelle. Les précisions du ministre de l'Agriculture au micro de Vaïtiaré Pereire.
Donc ça va se traduire par un renforcement de nos échanges et une augmentation de nos compétences respectives. On a à apprendre, nous, de nos voisins, comme eux, le séjour qu'ils ont fait ici en Polynésie en visitant différents centres de transformation, ça leur a donné également des idées et pour leur part aussi des volontés de nous copier. C'est en se copiant, en copiant les autres, qu'on arrive ensuite à un niveau d'excellence.
Et selon Taïvinité, le renforcement de ces échanges porterait sur l'alimentation, bien sûr, mais aussi sur le sport, la culture, voire sur un système de formation commun. Une convention cadre devrait donc être établie entre les pays de la région.
Roni Teripaya veut rassurer les enseignants.
Oui, le ministre de l'Éducation était l'invité de la rédaction hier. Et deux mois après la rentrée, Roni Teripaya affirme disposer de tous les effectifs enseignants nécessaires, y compris dans les îles éloignées qui rebutent parfois certains professeurs. Il a profité de cette interview pour prendre la défense des enseignants, parfois accusés d'absentéisme excessif.
Je tiens à rappeler quand même que ce phénomène d'absentéisme n'est pas lié au simple fait d'être malade. Il y a des absences qui sont liées au congé de formation. Il y a des absences qui sont liées aussi aux responsabilités en tant que parents qui doivent s'occuper de leurs enfants comme tous les parents. Il faut arrêter de stigmatiser et dire que les enseignants sont absents pour maladie. Non, c'est complètement faux. Il faut rappeler qu'il y a des formations et qu'ils ont aussi des responsabilités en tant que parents.
Le ministre qui répondait à Caroline Perdry a aussi confirmé que les classes bilingues français-tahitien sont vouées à être étendues. Elles sont aujourd'hui 17 et pour Roni Teripaya, elles représentent une étape vers les écoles immersives dans lesquelles l'intégralité de l'enseignement se fera en Réo-Tahiti. Reste à mettre en place la formation des enseignants qui ne maîtrisent pas tous les langues polynésiennes. Reste aussi à mettre en place la reconnaissance de l'État pour les diplômes que ces écoles dispenseront. Le ministre espère voir les premiers résultats d'ici 5 ans. Et s'il estime qu'il n'y a pas de professeurs réfractaires à cette réforme, il reconnaît que certains souffrent d'insécurité linguistique. Écoutez.
Des réfractaires, non, mais en fait, c'est le problème d'insécurité linguistique. Certains enseignants comprennent parfaitement le tahitien, mais c'est juste au moment de prendre la parole. La prise de parole, ils ne sont pas rassurés. Donc l'objectif premier, c'est de les rassurer, d'essayer de faire en sorte qu'ils osent d'abord prendre la parole. C'est la raison pour laquelle nos enfants ne savent plus parler non plus. Et donc, l'objectif premier, c'est de les faire parler. À ce stade, il ne s'agit pas de critiquer qui que ce soit. Il faut rassurer avant tout et accompagner. C'est comme ça qu'on va y arriver.
Et pour y parvenir, les programmes de l'École supérieure du professorat et de l'éducation seront renforcés dès l'année prochaine. Le ministre se rendra en métropole en novembre pour le dialogue de gestion avec l'éducation nationale. Il en profitera aussi pour visiter des écoles d'Iwan en langue bretonne. Enfin, le ministère de l'Éducation aura besoin de moyens financiers supplémentaires, notamment pour assurer les formations des enseignants. Roni Teripaya ne dit pas quel est le montant qu'il voudrait voir inscrit au budget 2024, mais il serait question d'au moins 200 millions supplémentaires.
Moetei Brotherson a rencontré l'ambassadeur de France à l'ONU.
Oui, l'ambassadeur, c'est Nicolas de Rivière qui, on le rappelle, a pris la parole mardi lors de la 4e commission relative aux questions de décolonisation. C'était une première depuis 10 ans pour l'État. Alors, selon Polynésie la Première, le président du pays, accompagné du député Steve Chaillou, ont discuté avec l'ambassadeur pendant une heure hier. Discuté de l'ONU, bien sûr, mais aussi de la Nouvelle-Calédonie, dont la Polynésie reste très proche, et de la Chine. Nos confrères soulignent qu'Oscar Temaru, Anthony Géraud et Tematei Le Gaïc ont préféré ne pas venir. Moetei Brotherson, lui, s'est dit satisfait de ce qu'il qualifie de début de dialogue.
Et justice, désormais, la tolérance zéro s'applique pour les affaires de stup.
Oui, la cour d'appel jugeait hier un homme qui a été condamné récemment à 4 ans de prison ferme pour avoir été à la tête d'un réseau de revendeurs d'ice et de paca. S'il a fait appel, c'est pour que le tribunal allège sa peine au regard de ses deux cancers et de sa situation familiale, puisqu'il a élevé seul ses 7 enfants. Au vu de son implication dans le trafic, l'avocat général a demandé la confirmation de la peine. Le délibéré sera rendu le 19 octobre. Autre exemple avec une autre affaire en appel, mais cette fois c'est le parquet qui a fait appel, celle d'un homme de 47 ans qui en juillet 2022 avait été reconnu coupable d'avoir incité 4 filles mineures à consommer de l'alcool, du paca et du poppers lors de fêtes à son domicile. Photos et vidéos à l'appui. Il avait écopé d'une peine de 2 ans de prison, dont une avec sursis, peine qui pourrait finalement être rallongée hein, selon l'avocat général pour qui les faits sont établis et il y a un décalage entre ceci et la peine prononcée en première instance. Elle a rappelé les dangers de la consommation du cannabis chez les adolescents. Elle a pointé aussi sa nonchalance et son absence de remise en question. Elle a enfin réclamé 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, assorti d'un mandat de dépôt. Là aussi, le délibéré sera rendu le 19 octobre.
Et puis on vous parle de ce rameur en perdition dans le Pacifique.
Oui, un jeune Australien qui effectuait une traversée à la rame en solitaire a été sauvé jeudi par les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Il se trouvait au large du Vanuatu. Il est actuellement à bord d'un paquebot de croisière qui a été dérouté pour le retrouver. Le navigateur était en état d'hypothermie hein, quand il a été récupéré. Il a ensuite été soigné par les équipes médicales du navire et il sera accueilli à quai à Auckland, qui est la prochaine escale de la croisière. Cette jeune victime s'appelle Tom Robinson. À 24 ans, il tentait d'être le plus jeune rameur en solitaire à traverser le Pacifique. C'est sa balise de détresse qui a permis au secours de l'aider.
Le pays va entamer les travaux au niveau du PK43.
Oui, à cet endroit, la route avait été coupée, rappelez-vous, en juillet dernier par un éboulement survenu après de fortes pluies. La colline avait ensuite été purgée et pendant plusieurs jours, la circulation a dû être interrompue avant d'être rétablie en alternance. Depuis, un dispositif de sécurité a été mis en place pour amortir de nouvelles chutes de pierres et sécuriser la voie restée ouverte. Des travaux vont donc être entamés, on l'a dit, et la route devrait être partiellement fermée à nouveau dès le démarrage du chantier, c'est-à-dire du lundi 23 octobre au lundi 18 décembre 2023, pendant 2 mois donc. Et durant cette période, des plages horaires vont être aménagées pour réduire les contraintes. Alors, hors vacances scolaires, la route sera fermée de 8h30 à 15h30 les lundis, mardis et jeudis, et de 8h30 à 11h les mercredis et vendredis. Pendant les congés scolaires, la route sera fermée tous les jours de 8h30 à 15h30.
Et un écran géant pour la Coupe d'Océanie de futsal.
Oui, soir de finale pour la sélection tahitienne de futsal qui affronte la Nouvelle-Zélande à 20h. Un match très important puisque le vainqueur sera non seulement sacré champion d'Océanie, mais en plus qualifié pour la Coupe du Monde 2024. La ministre des Sports, Naima Temari, a annoncé ce matin que la rencontre serait donc diffusée sur écran géant à partir de 19h35 dans les jardins de Paofei. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Retour de l'actualité à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup Valdemar.
Coupe du Monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération Polynésienne de Rugby.
Et plus les jours passent, plus les matchs avancent et plus la finale se rapproche à grands pas de cette Coupe du Monde de rugby à 15 2023. On est avec Gilles Lafitte, directeur technique de la Fédération Polynésienne de rugby. On va vérifier s'il a encore de la voix, Gilles. Yolana, Gilles ?
Oui, Yolana, Kevin. Eh bien, écoute, oui, il faut garder notre voix hein, parce qu'il y a encore quelques matchs intéressants.
Oui, mais bon, on va dire que le principal est désormais passé, on va dire que le plus dur est derrière nous, puisque ça y est, la France s'est imposée 60-7 face à l'Italie ce matin, c'était à l'OL Stadium à Lyon, donc ça y est, la France est désormais dans les phases éliminatoires de cette Coupe du Monde 2023.
Oui, tout à fait, hein. Très belle entame, une entame, je dirais, de match parfaite pour la France, qui se sont impliqués, ils ont été sérieux. Voilà, donc ils ont été impitoyables hein, face à ces Italiens. C'est aussi une grosse défense à laquelle on a assisté. Et donc, du coup, ben, on passe sur une deuxième compétition en élimination directe maintenant.
Exactement. Classement final de cette poule A, 18 points la France, 15 points la Nouvelle-Zélande. Et puis juste derrière, donc, l'Italie à 10 points, 5 points pour l'Uruguay. Et puis on l'avait dit dès plusieurs matchs déjà, la Namibie qui finirait à 0 points pour cette Coupe du Monde. La mi-temps, 31-0. Score final, on l'a dit, 60-7. Un petit essai hein, de l'Italie. Il y en a eu un également annulé.
Oui, tout à fait. Bon, ben, annulé pour une faute directe d'un joueur italien, malheureusement. Voilà, mais on peut aussi un clin d'œil pour deux essais de Moefana et un essai de Peato Movaca. Donc, les jeunes Calédoniens qui ont brillé aussi et qui ont pu marquer sur ce match. Donc, c'est les deux premiers essais de Johan Moefana.
Exactement, et puis de très très beaux essais. Les matchs, bien sûr, ça continue avec cette phase finale, hein, on va dire, de ces poules, puisque demain et dimanche auront lieu les tout derniers matchs. Les Pays de Galles contre la Géorgie, l'Angleterre contre le Samoa, l'Irlande contre l'Écosse pour samedi, et puis le dimanche, Japon-Argentine, Tonga-Roumanie, Fidji-Portugal. Est-ce qu'il y a une affiche comme ça qui te tente plus qu'une autre ?
Ah ben écoute, oui, samedi, bien sûr, on aimerait... Il y a deux matchs, hein. Il y a quand même ce match Irlande-Écosse, puisque rien n'est fait dans ce pool. Si jamais on a une surprise des Écossais qui battraient l'Irlande, ce qu'on doute, mais ça veut dire que rien n'est fait dans ce pool. Et puis il y a un deuxième match aussi, Angleterre-Samoa, donc on va voir comment les Samoans puissent aborder ce match. Donc deux matchs très intéressants.
Résultat lundi, bien sûr, juste après votre journal de la mi-journée du rugby local également.
Oui, ben écoute, on a un week-end très chargé puisqu'on reçoit un arbitre référent de la Fédération française de rugby qui va mettre en place une formation d'arbitres avec 13 arbitres locaux qui vont pouvoir assister samedi et dimanche à une formation, plus dans la semaine. On a un tournoi U12, U14 organisé par le club de Papeete. Donc aujourd'hui, on a à peu près 80 jeunes inscrits. Et puis, on a un tournoi Seven senior à Fatawa, à 7. Voilà, et on a un week-end bien chargé ce samedi.
Et ben je vais peut-être me faire une pizza en tout cas moi ce soir. Allez, voilà. Merci beaucoup Gilles, je rappelle, directeur technique de la Fédération.